Avec nous au téléphone Benoît Boritz, tu es chercheur militant, animateur de l'association Autogestion et du site economie.org sur lequel sont parus plusieurs articles sur les conséquences économiques de l'épidémie. Tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, je cite les deux derniers, Au-delà de la propriété et plus récemment Virer les actionnaires. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que cette crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid-19 est également une crise économique. Ce qui est intéressant de prime abord, et notamment pour les adeptes de l'alternative, c'est que l'épidémie et le confinement rendent possible un scénario de décroissance économique. On voit par exemple une chute de la production, ne serait-ce que dans la zone euro, de 25% du produit intérieur brut. Alors d'abord, Benoît, en quoi cette décroissance-là, économique, qui est en train de se faire, pourrait être fatale à une économie capitaliste?
Eh bien parce que l'économie capitaliste, elle se nourrit de cette croissance. Je pense qu'il faut comprendre. On croit souvent que les actionnaires, en fait, ce qui les motive, c'est le profit. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas le profit des entreprises. Ce qui les motive, c'est la valorisation de leurs capitaux. Et la valorisation de leurs capitaux, elle est donnée par un scénario de dividendes futurs. Donc, quand l'économie, elle est en croissance, eh bien, naturellement, à rapport inchangé entre les classes, les dividendes sont censés monter. Et ça donne une très bonne valorisation au capital. Lorsqu'on est dans une croissance faible, et a fortiori dans une décroissance, ben, le scénario de croissance de dividendes ne peut se produire que si on pressurise au maximum les salaires et tout ce qui est dépenses sociales comme la santé publique, justement, puisque c'est le point qui est sur la sellette aujourd'hui. Dans ce cas-là, on a une dévalorisation des capitaux. Alors, on pourrait se dire, bon, ben, c'est pas très très grave qu'il y ait dévalorisation des capitaux, on s'en fiche, mais ben, oui, sauf que les actionnaires, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir dans les entreprises. C'est eux qui décident des investissements et du niveau de l'emploi. Donc, on ne peut pas, et je suis extrêmement ferme sur ce point, on ne peut pas envisager une économie de la décroissance sans se séparer des actionnaires et des sociétés de capitaux.
Alors, ce scénario de décroissance n'est pas celui que souhaite l'État, en tout cas, c'est pas celui qu'il tente de voir advenir. Preuve en est la première mesure annoncée par Emmanuel Macron le 12 mars, qui est une exonération des charges sociales des entreprises. Alors, tu dis que cette exonération, enfin, cette mesure, en tout cas, est irréelle, économiquement déjà, en plus d'être certainement injuste. Alors, d'abord, est-ce que tu pourrais rappeler brièvement ce que sont les cotisations sociales, c'est-à-dire une part de revenus des salariés? Et deuxièmement, en quoi c'est irréel, notamment le fait que ces cotisations fournissent les moyens aux services publics et par exemple les hôpitaux dont nous avons grandement besoin ou encore l'indemnisation du chômage?
Oui, mais ces cotisations sociales sont des dispositifs qui ont été construits tout au long du XXe siècle. Et on a tendance à considérer qu'il s'agit de salaires socialisés. Donc les cotisations sociales sont du salaire. Pourquoi ? Bah parce que c'est bien entendu du salaire de substitution quand on est au chômage, c'est du salaire de substitution quand on est malade, c'est du salaire de substitution quand on est à la retraite. Mais c'est aussi, et c'est ça, je dirais, la particularité des cotisations sociales à la française, la possibilité de financer du non-marchand et notamment de la fonction publique. Et dans le cadre de la santé, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ben les cotisations sociales, c'est directement ce qui fait les salaires des personnels soignants. Lorsque le gouvernement Macron décide de se substituer aux entreprises pour payer ses cotisations sociales, quelque part, il fait appel aux contribuables pour se substituer à des actionnaires qui sont défaillants. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Toute la question posée tout à l'heure, on parlait de décroissance. Je crois que nous avons aujourd'hui en face de nous un scénario de décroissance qui est tout sauf le scénario de décroissance de rêve. C'est tout simplement un cauchemar que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est confiné à la maison pour éviter de surcharger les services hospitaliers. Et on sait que pendant le même temps, ce sont des milliers et des milliers de morts qui sont annoncés tous les jours. Donc c'est un scénario de cauchemar, il n'est pas question de... Mais on sait qu'avec cette décroissance, on a vu qu'immédiatement la pollution tombait, et ce que l'on savait depuis des années, c'est l'impossibilité aujourd'hui d'avoir une croissance propre, ça nous montre une possibilité réelle d'envisager de sauver notre écologie, de sauver les espaces naturels, sauver notre climat, sauver la biodiversité. C'est ça, à mon avis, c'est-à-dire sauver tout simplement ce qui fait notre humanité au final. C'est pour ça que cette question posée aujourd'hui de dire un gouvernement se substitue aux actionnaires dans le sauvegarde des sociétés de capitaux telles qu'elles sont, c'est-à-dire d'entreprises qui sont orientées vers le profit et vers la valorisation du capital et toujours plus croissant, c'est un véritable crime. J'ai tendance à dire que c'est presque un hold-up. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'argent public pour maintenir en place des actionnaires. On va se servir de l'argent public pour nationaliser certes des compagnies d'avions, mais pour faire quoi ? Pour envisager un commun des transports longue distance dans lequel on va se soucier d'écologie ? Non ! L'objectif, c'est de les relancer pour demain les remettre à la privatisation. Je pense qu'on assiste ici à une opération sous couvert d'union nationale, une opération politique extrêmement discutable.
Alors on nous rabâche depuis pas mal de temps maintenant qu'il faut absolument sauver l'économie, sans quoi nous courons à la catastrophe. Alors tout ça pose évidemment des questions de parti pris et d'idéologie. Mmh. Pour toi, sauver l'économie, c'est tout à fait différent de sauver le capitalisme, qui d'ailleurs, comme tu le précises, va à l'encontre de la démocratie économique. Alors, en quoi est-ce que c'est différent ? Est-ce que tu peux réexpliquer que sauver l'économie pourrait se faire tout en détruisant le capitalisme, justement ?
J'ai même tendance à dire que, au final, sauver l'économie, c'est détruire le capitalisme, parce que il n'y aura pas de possibilité d'économie demain si la vie n'existe plus sur cette terre, tout simplement. Mais revenons, je dirais, au cœur de la sémantique. On nous parle aujourd'hui de sauver l'économie, on nous parle aujourd'hui de sauver les entreprises. Alors j'ai envie de poser une question, qu'est-ce que c'est que l'entreprise ? Enfin, l'entreprise, je crois que c'est avant toute chose un collectif de travailleurs, de travailleuses, un collectif de salariés, qui ensemble produisent des biens et des services. Du coup, un artisan, c'est une entreprise, c'est sûr. Et il faut sauver un artisan. Une coopérative de travail, une SCOP, c'est-à-dire une entreprise dans laquelle les salariés sont propriétaires de l'entreprise et la dirigent, c'est une entreprise. Et ça, il faut le sauvegarder. Mais la forme générale des entreprises aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les sociétés de capitaux. C'est-à-dire ce qui a initié l'entreprise, ce sont des investisseurs qui mettent de l'argent ensemble, un capital, pour obtenir au final plus d'argent avec de l'argent. C'est cette forme, alors faut comprendre que cette forme de société, d'entreprise, elle est en soi fragile parce qu'elle n'est pas pilotée par la valeur ajoutée que produisent ses salariés, dont ils sont normalement titulaires, mais elle est pilotée par le profit, qui est la partie que les actionnaires extraient de la valeur ajoutée en ne laissant que la masse salariale aux salariés. Donc on a ici une économie qui est extrêmement fragile au contraire, alors que si on avait une économie qui était pilotée par la valeur ajoutée, nous aurions une économie largement plus solide. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc je crois que la question essentielle posée aujourd'hui, c'est de parler de défense de l'entreprise contre la société de capitaux qui l'étrique et qui l'empêche de vivre. Une entreprise démocratique, bien sûr.
On entend souvent dire qu'il faudrait, en quelque sorte, faire payer la crise aux actionnaires. En l'occurrence, c'est pas ce qui se dessine. En tout cas, c'est pas les mesures qui ont été prises par le gouvernement qui va faire payer la crise aux contribuables. Toi, tu proposes des solutions assez immédiates, justement, pour compenser toutes ces pertes dans les entreprises. Et tu parles de péréquation des entreprises. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer d'une manière un peu vulgarisée ce que ça signifie, ou en tout cas nous expliquer qu'il existe d'autres solutions pour faire face à la crise actuelle?
D'abord, assez curieusement, je ne m'associe pas au mot d'ordre « faire payer la crise aux actionnaires ». Je pense que c'est pas forcément un bon mot d'ordre, parce que ça fait un peu revanchard. Non. La question est toute simple. La question, elle est qu'aujourd'hui, les actionnaires ont failli. Ils ont failli dans l'obligation qu'ils ont de payer les salaires et les cotisations sociales. Et c'est à partir de cette faillite des actionnaires qu'il faut sauver l'entreprise. Sauver l'entreprise en tant que collectif de travail. Alors bien entendu, la question qui se pose, et c'est là qu'on touche la deuxième partie de ta question, c'est la question des revenus des travailleurs dans les entreprises. Dans ce cadre-là, je dirais que qu'est-ce qui se passe ? Lorsque les travailleurs reprennent leur entreprise, comme je l'ai dit, ils deviennent en quelque sorte entièrement titulaire de la valeur ajoutée. J'explique pour les auditeurs, la valeur ajoutée, c'est la valeur que les travailleurs, les salariés apportent aux achats de l'entreprise et à l'usure des équipements en vendant leur production. Donc c'est ce qu'ils ajoutent à ce qu'ils ont acheté. Cette valeur ajoutée, c'est eux qui la produisent uniquement. Et elle est divisée aujourd'hui entre une masse salariale, les salaires, ce qui revient aux salariés, et l'autre partie qui sont les profits. À partir du moment où les actionnaires disparaissent, il va de soi que les salariés sont totalement titulaires de cette valeur ajoutée. Ils en bénéficient pleinement. Le problème, c'est que dans cette situation de récession, de décroissance, de récession non voulue aujourd'hui, mais de décroissance voulue demain, les revenus sont bien entendu en baisse, et puis on a d'une façon générale des soucis de stabilité des entreprises. On aime bien la stabilité des revenus, et ce qui est quelque chose qui est normal, et c'est dans cet esprit que j'ai fait sur mon site economie.org, vous pouvez aller voir péréquation de la richesse disponible, c'est un système dans lequel on va mutualiser une partie des flux de trésorerie des entreprises et les redistribuer en fonction du nombre de personnes en temps plein, en équivalent temps plein dans l'entreprise. C'est ainsi que pour chaque l'entreprise, à chaque fois qu'elle embauche une personne, elle est assurée de toucher un revenu pour cette personne par la simple présence de celle-ci. Donc c'est un système qui est complètement anticyclique, c'est-à-dire si jamais une entreprise se trouve en difficulté à un moment donné avec une baisse de chiffre d'affaires, immédiatement les autres entreprises vont verser à cette entreprise de façon à assurer un maintien de revenus à ses travailleurs. Et inversement, on souhaite que cette entreprise demain se comporte beaucoup mieux économiquement, elle a un retour, et on espère bien entendu qu'elle sera contributrice nette de ce système. C'est en fait une espèce de nouveau système de sécurité sociale qui, la sécurité sociale permettait de socialiser tout ce qui est relatif à du salaire hors travail. Là, aujourd'hui, il s'agit de socialiser une partie du salaire qui, aujourd'hui, est beaucoup trop dépendant du travail et de l'unité économique dans laquelle le travailleur se trouve.
Parmi les solutions qui sont également proposées, on entend parler de nationalisation, on entend aussi parler de rachat des emprunts des États de la zone euro. Alors a priori, on pourrait plutôt se réjouir de voir des renationalisations, notamment de certains services publics, ou ce qui pourrait être des services publics. On pourrait aussi se réjouir de voir que les dettes soient en quelque sorte recentralisées, qu'elles échappent au marché financier en tout cas. Est-ce qu'il faut vraiment se réjouir de ça? Actuellement, quel est ton point de vue là-dessus?
Je crois que c'est un très vieux débat. En fait, il n'y a rien de neuf. Quand on voit le débat, par exemple, sur les nationalisations, on voit que c'était un débat qui existait déjà à l'époque de Jaurès. Jaurès expliquait, attention, lorsque l'on nationalise une entreprise, c'est pas pour cela qu'on la socialise. On la retire certes des mains du privé, mais toute la question c'est pour quelle finalité, qu'est-ce que nous allons faire? Jaurès, et c'est un petit peu ce que j'ai défendu dans mon livre Au-delà de la propriété pour une économie des communs, on n'a jamais vraiment vu le chemin qui permettait de passer à la nationalisation à la socialisation. C'est toujours nationalisation vers étatisation, et qui dit étatisation dans les mains de l'État est souvent reprivatisation derrière. Donc quand on voit aujourd'hui des entreprises qui sont nationalisées en urgence, et on pense aux compagnies aériennes bien sûr, toute la question posée c'est pourquoi faire? Pourquoi faire demain? Encore une fois, si demain c'est pour les relancer économiquement et les reprivatiser, très bien pour le budget de l'État, l'État fera une bonne opération, ça c'est clair. Mais ce n'est pas la finalité que nous voulons. Ce que nous voulons, je pense, c'est penser demain la question des transports longue distance dans une optique écologique qui respecte la planète, et je pense que c'est au contraire en transformant ces compagnies d'avions, peut-être en les fusionnant avec le rail, on a privatisé ou on est en voie de privatiser la SNCF aujourd'hui, ce qui est une aberration écologique, commencer à penser un commun de longue distance qui seraient en partie subventionnées, en partie dissuadées par des taxes sur certains modes de transport, d'autres interdits. Il y a des destinations qui n'ont absolument aucune raison d'être desservies par l'avion. Enfin, tout ça est l'objet d'un débat démocratique, mais en tout cas, si c'est nationalisé pour être privatisé, non. Vous abordez une deuxième question, qui est la question du rachat par la BCE des obligations des États. On a vu Christine Lagarde qui, en une nuit, a rallongé, enfin c'est pas que Christine Lagarde, hein, c'est l'ensemble des gouverneurs des différentes banques centrales nationales, qui ont rallongé de 750 milliards les possibilités de rachat d'obligations des États, alors qu'ils n'avaient à l'époque que 300 milliards de disponibles. Donc on est aujourd'hui à 1050 milliards que la BCE peut racheter sur le marché secondaire. Alors, c'est un petit peu la même chose, on se pavoise, on dit « mais c'est extraordinaire, c'est ce qu'on avait demandé depuis des années, etc. » c'est vrai, c'est ce qu'on a demandé depuis des années, que les banques centrales puissent financer les budgets des États. Mais là, encore une fois, ce sont des mesures qui sont prises parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et que aujourd'hui, si jamais les États, la BCE ne faisait pas ça, c'est racheter massivement l'endettement des États, les nouvelles dettes des États, il se passait quelque chose de catastrophique. Les taux d'intérêt montraient immédiatement, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu quelques jours avant l'annonce des 750 milliards, les taux, alors qu'en France on était à moins 0,50% lorsque l'État français empruntait à 10 ans, on est passé à 0,25% en positif. Et puis là, heureusement, ça s'est refroidi là-dessus, mais on rentrait à nouveau dans un scénario dans lequel il y avait un emballement et où les détenteurs d'obligations allaient imposer leur taux d'intérêt aux États, allaient imposer leurs règles aux États. Et là, bon, je dirais, l'État, il a beau être au service des entreprises privées, il y a un moment donné, il a des choix à faire et il ne peut pas être à la fois au four et au moulin, à la fois soutenir les sociétés privées, les sociétés de capitaux, et puis faire face à des marchés financiers qui vont l'attaquer sur le terrain de la dette. Donc, je dirais, il n'y a absolument pas à pavoiser de cette décision de la BCE d'augmenter ses autorisations d'achat de dette publique sur le marché secondaire.
Alors maintenant, j'aimerais aller un peu dans la prospective. Imaginons que... à la suite de cette crise au moins sanitaire, parce qu'on s'imagine bien que la crise économique va, elle, perdurer un peu plus longtemps. Imaginons qu'on reste dans la dynamique actuelle, c'est-à-dire avec ce type de mesures que prend le gouvernement et qu'il n'y a aucune alternative qui se dessine. À quoi faudrait-il se préparer, en quelque sorte, pour écoper le raz-de-marée économique et quel pourrait être, en quelque ou comment ça pourrait devenir également un choc social? Je pense aussi à des cures d'austérité encore plus intenses.
D'abord, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même interroger la gauche et l'écologie politique. On se trouve en face d'une situation qui permet, aussi bien l'une que l'autre, et de temps en temps, je dirais les deux sont assez mélangés, de répondre à nos aspirations, c'est-à-dire qu'on a vraiment aujourd'hui, on est dans une situation où la question du départ des actionnaires est posée, où la question de la socialisation de l'économie est posée, on est dans une situation où il est très clairement possible de donner un nouveau cours à notre économie de façon à ce qu'enfin elle respecte la planète, qu'enfin on la sauve, cette humanité, cette planète. Tout le rapport du GIEC ne cesse de nous dire, c'est dans ces années-là que nous prenons les décisions qui feront que demain, nous aurons un environnement viable ou pas. Et attention, dans 5 ans, 10 ans, ça sera trop tard. Ben là, on est à ce tournant. Et assez curieusement, je remarque que l'écologie politique, ou même la gauche, est assez silencieuse. On est un petit peu dans l'Union nationale, derrière l'idée de dire « bah oui, sauver l'économie, on va sauver l'économie ». Bah oui, c'est logique, quoi. Sans poser la question de « qu'est-ce que c'est que cette économie ?». Alors, au sortir de cette crise, qu'est-ce qui va se passer? Mais bien sûr, il peut se passer des tas de choses. Déjà, on voit que Macron se prépare. Il a annoncé hier soir qu'il allait y avoir des mesures extraordinaires de prise pour la santé publique, pour les personnels de la santé publique à qui on doit une reconnaissance, etc., etc. On sent que rien ne se passera tout à fait comme prévu. Il n'est pas du tout exclu qu'à partir de ce moment-là, les salariés, oui, demandent des contreparties par rapport à ce qui s'est passé. Donc je dirais, tout est un petit peu ouvert, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut tracer cette possibilité. Je pense très sincèrement qu'il va falloir que la gauche et l'écologie politique disent clairement que, attention, tout ce qui va être abandonné aux sociétés de capitaux en termes de cotisations sociales, et quand là je parle d'abandon définitif, pas de substitution, c'est-à-dire on va effacer et on va maintenir les sociétés de capitaux, ben que jamais ça ne se produise, ou si ça se produit, qu'il y ait des contreparties tangibles, je crois que ça c'est très important. Mais au final, je pense que le problème de cette économie capitaliste, de ces sociétés de capitaux, ça a toujours été leur valorisation. C'est à cause de cette problématique de la valorisation, qui est donnée, je le répète, par les anticipations de dividendes, qu'il faut favoriser ces dividendes, et que donc le moins-disant social, le moins-disant fiscal, est toujours le meilleur pour ces sociétés de capitaux. Et c'est pour ça que la santé publique, elle a été conçue dans une logique de budget contraint. C'est-à-dire qu'on a dit, ça sera tel budget, pas autre chose, et débrouillez-vous pour faire face à tout ce qui viendra. Je crois qu'on est obligé de passer maintenant dans une autre logique. Pour l'instant, Macron n'a annoncé que des augmentations de salaire, de revoir des tas de choses, mais elle n'est pas là, la vraie question. La vraie question, c'est quelle santé publique nous voulons, en face, quel est le budget, et bien entendu, il y a un débat sur le niveau de prélèvement à avoir. Il ne s'agit pas de dire qu'on va aller n'importe où, dans n'importe quel montant, je dirais, alloué à la santé publique. Bien sûr, c'est un débat citoyen à avoir, mais il est évident que ça ne sera certainement pas cette santé qu'on a eue aujourd'hui. Ça fera quelque chose de plus. Alors, je veux bien qu'on me dise, il y aura une santé publique qui sera beaucoup mieux assurée demain qu'elle ne l'a été dans le passé. La question, elle est, qui va payer? Est-ce que c'est compatible avec les valorisations des sociétés de capitaux? Je pense aussi qu'après avoir connu une baisse de 30% de la valorisation, et ça n'est pas fini, on ne sait pas où ça va aller dans les jours qui viendront, ben les actionnaires, en quelque sorte, ils sont échaudés. C'est ce que j'appelle la prime de risque sur mon site economie.org, enfin que les financiers appellent la prime de risque. La prime de risque va énormément monter, parce qu'il y a une volatilité. Donc, prime de risque, ça veut dire qu'ils vont être encore plus exigeants sur les rendements qu'ils attendent demain de leurs actions. En quoi cela va être compatible? Là, franchement, c'est la grande question à laquelle il va pas falloir peut-être que les forces politiques répondent.
Ton dernier ouvrage s'appelle « Virer les actionnaires ». Est-ce que tu vois la crise actuelle, on l'a un peu dit, mais est-ce que tu vois la crise actuelle comme l'opportunité justement de pouvoir mettre en place une économie alternative? Et est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être grossièrement quelques-unes des modalités? Bon, donc déjà, est-ce que c'est possible d'après toi de virer les actionnaires, et pourquoi faire?
Alors, les virer, oui, tu parles d'opportunité, je ne sais pas si le mot, si c'est le mot opportunité que j'emploierais, je dirais qu'on est à un tournant où c'est possible, voilà. On est à un tournant où aujourd'hui c'est possible. Je drasse dans mon livre d'autres scénarios, un autre scénario, enfin je n'évacuais absolument pas le scénario de la crise financière. Bon, là, il se trouve qu'on est dans le scénario de la crise financière qui a été provoquée par une crise sanitaire. Mais il y a un autre scénario que j'envisageais aussi, c'était celle de l'avenue au pouvoir d'un gouvernement progressiste qui prendrait des mesures d'augmentation de la part des salaires dans la valeur ajoutée ou de diminution des profits. Et je disais dans ce livre, de toute façon, ce gouvernement, ou il se contente de faire ça et à un moment donné, il reviendra sur ses promesses et il trahira, comme d'autres l'ont fait, où il ira jusqu'au bout de sa logique, et le bout de sa logique, c'est que augmenter la part des salaires dans la valeur ajoutée, ça veut dire réduire les valorisations, ça veut dire augmenter les primes de risque, et ça veut dire faire face à une grève des investissements de la part des actionnaires. Et donc, il est nécessaire, c'est pas une idée que je lance, c'est pas l'idée, tiens, on va virer demain les actionnaires, non, c'est une obligation de virer les actionnaires si nous voulons que ces programmes sociaux et écologiques tiennent dans le temps et ils aient un sens. Voilà. Alors, en deux mots, dans ce livre « Virer les actionnaires », je réponds à cette première question « Pourquoi ?». Là, je viens d'en parler. Il y a la deuxième partie qui est « Comment s'en passer ?». Ben, comment s'en passer, je dirais, grosso modo, sur deux pistes qui me semblent essentielles. La première, ben, c'est l'idée de dire qu'il faut établir un système financier socialisé, qui est constitué d'un fonds citoyen, avec des contributions sociales, fiscales dans ce fonds, qui vont accorder des lignes de crédit à des banques autogérées, lesquelles banques autogérées vont financer les entreprises, tous les actifs des entreprises. L'idée centrale dans ce livre « Virer les actionnaires », c'est de financer la totalité des actifs des entreprises et donc faire disparaître la notion de capital et la notion de fonds propres. Je ne vais pas rentrer plus loin dans le débat technique, là on le retrouvera dans le livre et dans mon précédent livre, mais l'idée centrale est bien de se débarrasser de la notion même de capital, c'est-à-dire d'argent qu'on met à la disposition de l'entreprise et qui donne le pouvoir dans l'entreprise en contrepartie pour extraire des dividendes et obtenir une valorisation. Non, il faut sortir, comme je l'explique dans ces deux derniers livres, Au-delà de la propriété et Virer les actionnaires, sortir de cette notion de propriété des moyens de production. Donc là, je ne parle pas d'étatisation, je ne parle pas de nationalisation, je parle justement de non-propriété pour établir un commun dans lequel les travailleurs, les travailleuses, les salariés sont au pouvoir, dirigent l'entreprise, et dans laquelle les usagers, les citoyennes, citoyens ont la possibilité et doivent orienter ces entreprises en fonction de leurs besoins et en fonction de leurs aspirations et des libérations démocratiques. C'est ça la société que nous sommes, qui à mon sens, la direction, c'est une société extrêmement large en termes de possibilités, en termes de paramètres. En permanence dans mon livre, je dis, mais ça, c'est pas à moi d'en décider. Ça, c'est la délibération démocratique qui le fera. Une des composantes aussi de cette société de demain, comme je disais, c'est la sécurisation des revenus par la péréquation dont on a parlé tout à l'heure.
Merci beaucoup, Benoît Boritz.